de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Le premier satellite militaire sud-coréen a été lancé avec succès. L'Union européenne approuve le fonds de relance de pandémie de 30 000 billions roupias. Oxford n'a pas confirmé que le vaccin COVID-19 pouvait être utilisé à la fin de 2020. La promesse de Biden pour les musulmans lors de son élection à la présidence des États-Unis. Les sociétés de déménagement de Chine font des pionniers à Suban. La contribution des exportations manufacturières a dépassé 79% au premier semestre. Et Vietnam annonce 12 nouveaux cas après avoir été libre de COVID-19. Bonjour Zolitar, voici les nouvelles en complet. Le premier satellite militaire sud-coréen a été lancé avec succès. La société privée des États-Unis SpaceX a lancé avec succès le premier satellite de communication militaire de Corée du Sud, rapporté par l'AFP mardi 21 juillet. Un satellite appelé Analyst 2 a été lancé pour renforcer l'autodéfense de la Corée du Sud contre la Corée du Nord, qui possède des armes nucléaires. L'administration des programmes d'acquisition de la défense d'APA, dans une déclaration, a déclaré que c'est une fusée Falcon 9 fabriquée par SpaceX qui transportait la satellite Anasis 2 du Centre spatial de Cape Canaveral en Floride aux États-Unis. SpaceX a confirmé que le satellite s'était déployé 32 minutes après son décollage lundi après-midi en heure locale. DAPA a affirmé que la Corée du Sud devenait le 10e pays au monde à disposer d'un satellite de communication exclusivement militaire, ce qui permettra à son armée de disposer de communications satellites militaires permanentes et sécurisées. Le satellite doit atteindre dans 2 semaines son orbite à 36 000 km et l'armée sud-coréenne en prendra le contrôle en octobre à l'issue d'une phase de test. L'Union européenne approuve le fonds de relance de pandémie de 30 000 billions roupias. Mardi matin, 21 juillet, les dirigeants de l'Union européenne se sont finalement mis d'accord sur des fonds d'aide à la relance économique de 1,8 billion d'euros, soit environ 30 000 billions roupias. Ce fonds de valeur fantastique n'a jamais été budgété auparavant et vise à aider les pays membres de l'Union européenne qui connaissent un effondrement économique en raison de la pandémie de COVID-19. Le programme d'assistance économique comprend des fonds de 750 milliards d'euros, soit environ 12 000 billions roupias, qui seront envoyés sous forme de prêts de subventions ainsi que 1 billion d'euros de fonds, soit environ 17 000 billions roupias, qui sont possédés par l'Union européenne au cours de la période budgétaire 2021 à 2027. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a tweeté un court message via son compte Twitter qui disait d'accord quelques minutes après que les dirigeants sont parvenus à un accord sur le financement. Oxford n'a pas confirmé que le vaccin COVID-19 pouvait être utilisé à la fin de 2020. L'Université d'Oxford au Royaume-Uni a exprimé la possibilité que le vaccin COVID-19 puisse être utilisé à la fin de 2020. Mais il n'y a aucune certitude à ce sujet, selon le chercheur en chef qui a développé l'antivirus mardi. Le candidat vaccin COVID-19 dont le brevet a été accordé à AstraZeneca a réussi à créer une réponse immunitaire dans un premier essai clinique, comme le montrent les résultats de l'étude de lundi 20 juillet. La présidente des développeurs de vaccins de l'Université d'Oxford, Sarah Gilbert, interrogée par BBC Radio, a déclaré que les résultats positifs faisaient qu'Oxford s'attendait à ce que les candidats vaccins soient utilisés à la fin de cette année. Elle a déclaré que le vaccin doit d'abord montrer son efficacité dans les étapes finales des tests, qu'il doit être produit en grande quantité et que le gouvernement doit immédiatement autoriser l'utilisation du vaccin pour les besoins d'urgence. Les scientifiques d'Oxford espèrent qu'un million de doses du vaccin pourront être produites en septembre 2020. La promesse de Biden pour les musulmans lors de son élection à la présidence des États-Unis. Le candidat à la présidence des États-Unis, Joe Biden, a promis que s'il était élu à l'élection présidentielle de 2020, il supprimerait l'interdiction de voyager pour les pays à majorité musulmane. Il supprimera le premier jour de l'élection. Biden a déclaré que la voix de la communauté musulmane américaine était très importante lors de l'élection présidentielle américaine de novembre. L'interdiction de voyager est une politique d'ouverture qui attaque la communauté musulmane américaine. Pendant près de 4 ans, elle subit toujours des pressions et des insultes. Cela a été dit par Biden, rapporté par Middle East Eye, mardi 21 juillet, dans son discours lors du sommet tenu par le Comité d'action politique musulman. Engage Biden a souligné la décision de Trump qui a accru la haine envers la communauté musulmane. Biden a déclaré que Trump avait allumé le feu de la haine aux États-Unis. L'un des fondateurs d'Engage, Khurram Wahid, a décrit la promesse de Biden d'éradiquer la haine envers la communauté musulmane comme un moment historique. Le discours de Biden montre qu'il se soucie des valeurs de la communauté musulmane. Les sociétés de déménagement de Chine font des pionniers à Subang. Melon Technology Indonesia, société anonyme, une société taïwanaise qui a transféré son investissement de Suzhou en Chine vers l'Indonésie, a posé mardi une usine révolutionnaire pour un total de 90 millions de dollars à Subang, dans l'ouest de Java. L'inauguration a été suivie par le chef du Conseil de coordination des investissements BKPM, Bahlil Lahad Alia, le gouverneur de Java Occidental, Ridwan Kamil, le régent de Subang, Rohimat, et le conseil d'administration de Melun Technology Indonesia, SA, CSKD, la CFO Melun FACO, dans ses propos diffusés en ligne mardi. Elle a déclaré qu'au cours des deux dernières années, son parti avait mené des enquêtes et des évaluations dans divers pays et avait finalement choisi Subang, dans l'ouest de Java, comme le meilleur emplacement pour son investissement. Pendant ce temps, le directeur du BKPM, Bahlil Lahad Alia, espère que la révolution de Melun sera le bon élan pour accélérer la réalisation de l'industrie dans ce domaine. Il a également déclaré que Melun s'était fermement engagé à déplacer son usine en Indonésie. La contribution des exportations manufacturières a dépassé 79% au premier semestre. L'industrie de la transformation non pétrolière et gazière est toujours le secteur qui a le plus contribué à la réalisation de la valeur des exportations nationales comme au premier semestre 2020. La valeur totale des expéditions des produits du secteur manufacturier a atteint 5,76 milliards de dollars américains ou représenté 79,52% du chiffre total des exportations nationales qui a atteint 76,41 milliards de dollars américains. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasasmita dans sa déclaration à Jakarta mardi. Le ministre de l'Industrie a souligné qu'il continuait à maintenir la durabilité des activités de l'industrie manufacturière dans le pays, malgré la pression due au ralentissement de l'économie mondiale et à l'impact de la pandémie COVID-19. Car pendant tout ce temps, le secteur manufacturier a joué un rôle important de l'économie nationale. Il est déterminé à améliorer continuellement les performances des industries à vocation exportatrice. Vietnam annonce 12 nouveaux cas après avoir été livré de COVID-19. Le ministère vietnamien de la Santé a annoncé mardi 12 nouveaux cas de COVID-19 qui ont été trouvés dans un groupe de résidents dans des installations de quarantaine après leur retour de Russie. Le Vietnam est exempt de transmission locale du COVID-19 pendant plus de 3 mois grâce au succès du programme de lutte contre les épidémies. Le gouvernement vietnamien n'a pas non plus signalé de décès liés à la COVID-19 sur 396 patients traités pour des maladies dues à un nouveau type de virus corona, SARS-CoV-2. Jusqu'à présent, environ 90% des patients traités se sont rétablis. La guérison de Stephen Cameron, 42 ans, ou 91e patient, est l'un des symboles de succès du traitement de COVID-19 au Vietnam. Cameron est un citoyen britannique qui travaille pour la compagnie aérienne Vietnam Airlines. Il a été testé positif à la COVID-19 après avoir visité le centre de divertissement nocturne. Pendant plus de 4 mois, Cameron a été hospitalisé en ville de Ho Chi Minh. En raison des complications de la maladie, il a même connu une diminution de la fonction pulmonaire à rénale. Mais à la mi-juillet, il a traversé la période critique et s'est rétabli du COVID-19. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains.
Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, les engagements de l'Union européenne anticipent l'impact de COVID-19. Après 4 jours de discussion et d'argumentation, les dirigeants de l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord important pour surmonter l'impact de la pandémie de COVID-19. Le sommet de l'Union européenne qui s'est terminé mardi le 21 juillet a convenu de lever environ 2 billions d'euros pour faire face au problème. Bien qu'il y ait l'obstacle de la Hongrie et de la Pologne, parce que ces deux pays ont tenté d'entraver l'accord, le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que le sommet était un succès. La discussion marathon de 4 jours a finalement réussi à donner un nouvel espoir pour gérer les impacts de COVID-19. Le président français Emmanuel Macron a même déclaré que le résultat du sommet était cette fois un moment historique pour l'Union européenne. Des fonds d'environ 2 billions d'euros qui ont été approuvés par les dirigeants de l'Union européenne seront acheminés sous forme de subventions et de prêts pour les membres de l'Union européenne qui en ont besoin en raison des impacts importants de la pandémie de COVID-19. Cependant, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa déception en raison des coupes budgétaires pour la recherche et l'innovation. L'engagement et l'accord des dirigeants de l'Union européenne méritent d'être soulignés comme un succès commun dans le traitement de COVID-19 et de son impact. Les dirigeants ont utilisé l'organisation qu'ils ont formée pour discuter des questions urgentes et importantes liées à la pandémie de COVID-19. Les dispositions du sommet pourraient servir d'exemple à d'autres organisations régionales pour examiner et résoudre le problème qui a frappé presque tous les pays du monde. Parce que les organisations en dehors de l'Union européenne, des points de vue et des engagements différents sont souvent un obstacle pour parvenir à un accord. L'Union européenne a de la chance car aucun de ses États membres n'est impliqué dans des conflits sans parler de la guerre civile, comme c'est le cas dans d'autres régions du monde. Les conditions économiques des principaux pays tampons de l'Union européenne comme l'Allemagne et la France, sont également suffisamment capables de contribuer à la réalisation des engagements et de financement et des efforts conjoints. On pense que COVID-19 dans un certain nombre de pays de l'Union européenne a commencé à s'affaisser. Cependant, l'anticipation de l'impact à l'avenir, surtout dans le domaine économique, doit en effet être pensée. C'est ce que font les dirigeants de l'Union européenne. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 juillet 1917, la naissance de Adam Malik. Adam Malik est né à Pematang Siantar le 22 juillet 1917. Il est le troisième vice-président de la République d'Indonésie et ancien ministre indonésien des Affaires étrangères. Sa carrière a commencé en tant que journaliste et figure du mouvement national qu'il a fait en autodidacte. Dans sa jeunesse, il a participé activement au mouvement national de lutte pour l'indépendance d'Indonésie, notamment par la création de l'agence de presse Antara. Adam Malik a été nommé l'un des héros nationaux d'Indonésie le 6 novembre 1998. L'autre information est sur le pilote américain qui a fait le tour du monde le 22 juillet 1933. Willie Hartman Post est aviateur américain, le premier à faire le tour du monde en solo en 1933, connu aussi pour ses travaux concernant le vol à haute altitude. Il utilise un pilote automatique et une boussole pour remplacer son navigateur. Il est parti de Floyd Bennett Field et a continué à Berlin où il a fait des réparations à son pilote automatique. 50 000 personnes l'ont accueilli à son retour le 22 juillet après 7 jours, 18 heures et 49 minutes de vol autour du monde. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement du 22 juillet 2014. La Commission électorale générale au KPO détermine le vainqueur de l'élection présidentielle. La Commission électorale générale au KPO a déterminé le père Joko Widodo et Mohamed Yusuf Kalla comme président et vice-président élu lors de l'élection présidentielle indonésienne de 2014. Joko Widodo et Yusuf Kalla ont été inaugurés le 20 octobre de la même année. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre, le G20 accepte de coopérer pour protéger la vie et l'emploi pendant la pandémie. Les pays du G20 sont convenus de renforcer leur coopération et de poursuivre la mise en œuvre des politiques fiscales, monétaires et du secteur financier au milieu de la pandémie de COVID-19. Le directeur exécutif du département de la communication de la Banque d'Indonésie, Oni Wijanarko, a affirmé que une coopération accrue est menée pour protéger des vies, maintenir l'emploi, aider les personnes connaissant d'une baisse de revenus et accroître la résilience du système financier. Cette étape est une réponse à la propagation de la pandémie de COVID-19. Dans un communiqué de presse lié au résultat d'une réunion virtuelle des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales des pays du G20 publié lundi, Oni Wijanarko a expliqué que l'intensification de la coopération avait été menée pour surmonter la propagation du virus et renforcer la réponse des politiques à une reprise économique mondiale forte, durable, équilibrée et inclusive. À la réunion tenue le 17 juillet, l'Indonésie était représentée par la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, et le vice-gouverneur de la Banque d'Indonésie, Dodi Budi Waluyo. À cette occasion, la Banque d'Indonésie a souligné le rôle important des institutions financières internationales dans le soutien des efforts visant à accroître la résilience économique et la stabilité du système financier mondial. Oni Wijanarko a déclaré que la Banque d'Indonésie, en collaboration avec le gouvernement et les institutions et les agences associées, continuerait de renforcer la coordination et la synergie pour maintenir la stabilité macroéconomique et financière du système et accélérer la reprise économique d'Indonésie des impacts de la pandémie de COVID-19. Lors de la réunion du G20, le Fonds monétaire international ou FMI a déclaré que la pandémie de COVID-19 était d'une plus grande échelle et durait plus longtemps que prévu. Ces conditions font que l'économie mondiale se contractera en 2020. Les améliorations des indicateurs économiques dues à la réouverture de l'activité économique et le grand soutien aux politiques de relance monétaire et budgétaire dans divers pays sont encore relativement faibles. Avec ces développements, l'économie mondiale devrait renouer avec une croissance positive en 2021. Selon le FMI, dans un état où aucune solution médicale n'a été trouvée pour faire face au COVID-19, le renforcement de la coopération du G20 est nécessaire pour éviter des impacts négatifs plus profonds sur l'économie mondiale. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 ont également convenu de l'importance d'élargir l'accès à l'économie, à l'éducation et à l'emploi pour les femmes, les jeunes et les micro, petites et moyennes entreprises ou MPME, l'utilisation de la technologie dans le développement des infrastructures ou infrastructures et le renforcement de la résilience du secteur financier pour réaliser une reprise économique mondiale forte, durable, équilibrée et inclusive. Le forum a également convenu de continuer d'accorder un allègement sur les paiements de la dette extérieure ou l'initiative de suspension du service de la dette aux pays pauvres touchés par le COVID-19 et confirme l'engagement de parvenir à un consensus mondial lié à la fiscalité à l'ère de l'économie numérique à la fin de 2020. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Rindu
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est avec un grand plaisir que nous vous rencontrons à nouveau dans le magazine culturel. Un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter la plage de Tanjung Selayar. La plage de Tanjung Selayar est un objet touristique du village touristique de Sawarna, Bayah, la région de Lebak, Banten. Le nom de la plage vient de deux roches régionales qui ont la forme d'un bateau à voile. À l'est de la plage, il y a un groupe de coraux comme l'empreinte de pied gauche qui a une taille de 2 fois 1 mètre qui s'appelle jejak kaki kabayan ou en français signifie l'empreinte de pied de kabayan. Les gens disent que les empreintes de pied de son frère sont à Jampang, Sukabumi. Actuellement, la plage de Tanjung Layar et les autres plages du village touristique de Sawarna sont gérées par Bumdes Sawarna. À l'époque des Antilles néerlandaises, cette cap était connue sous le nom Eerste Punt de Java ou la première extrémité de Java. L'histoire de Tanjung Layar est racontée dans la chronique sundanaise et la légende de la côte sud. Selon l'histoire, de rocher géant dans la région de Tanjung Layar était l'incarnation de deux puissances qui deviendraient un navire sangkuriang pour traverser l'océan austral au moment de se marier avec sa mère, Dayang Sumbi. Mais Sang Hyang Widi, dieu tout puissant, n'a pas permis la volonté de sangkuriang. À cause de cela, il a fait rage. Le navire était jeté vers le nord, devenant le mont Tangkuban Perahu. Tandis que les grandes voiles qui ont été jetées au sud de l'île de Java sont des roches robustes et rigides sur la plage sud de la province de Banten. En fait, les roches jumelles se sont produites à cause d'un phénomène naturel qui s'est produit il y a 100 ans. Outre la plage, la zone de Tanjung Selayar possède également des milliers de grottes qui s'étendent le long de Pelabuhan Ratu jusqu'à Bayah et Malingping. Là-bas, il y a aussi un bassin marin naturel qui contient divers types d'animaux marins qui occupent généralement les récifs coralliens. Vous ne pouvez pas nager à la plage de Tanjung Selayar, mais la plage est un paradis pour les amateurs de photographie. C'est parce que la plage a beaucoup de beaux endroits comme objets de photographie. Tanjung Layar est également mentionné comme paradis caché sur la côte sud de l'île de Java par les touristes. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La plage de Tanjung Selayar ». Demain, nous nous retrouvons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu yang baru.
Aku pun terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Chers auditeurs et auditeurs, Si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la réplique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Ayo Makan di Kantin. Ayo Makan di Kantin. En français, mangeons à la cantine. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien dont le titre est Ayo Makan di Kantin. Ayo Makan di Kantin. Mangeons à la cantine. La situation est Siti invite Kevin à manger à la cantine. Siti a également expliqué que Kevin pouvait emporter son propre repas. Bonne écoute.
Ayo, kita pergi ke kantin.
Ayo, menunya apa?
Ada banyak, Kevin. Kita bisa ambil sendiri makanan itu.
Chers amis, après avoir écouté la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Ayo makan di kantin. Ayo makan di kantin. En français, mangeons à la cantine. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Et puis, vous pouvez me répéter. Ayo, kita pergi ke kantin. Ayo, kita pergi ke kantin. En français, allons à la cantine. Mari kita ke kantin. Mari kita ke kantin. Allez, on va à la cantine. Makan siang. Makan siang. Déjeuner. Makan malam. Makan malam. Dîner. Kantin. 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 Makanan. Makanan. Repas. Chers amis, l'horaire du repas est un moment de socialisation. En ce moment-là, il a été utilisé pour se rassembler et discuter. Pour proposer une invitation à manger ensemble, vous pouvez utiliser une phrase, par exemple « Allez, on va au restaurant ». Des endroits pour manger comme cantine, étal, restaurant. Ou bien vous pouvez utiliser « On mange à… » Voilà, et mentionner la place et les endroits. Cher ami, pour répondre à la phrase d'invitation, vous pouvez répéter le mot ou la phrase d'invitation donnée par quelqu'un d'autre. Voici l'exemple. Siti, ayo kita pergi ke kantin. Ayo kita pergi ke kantin. En français, allez, on va à la cantine. Kevin, ayo, ayo. En français, on y va. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. Pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Ayo, kita pergi ke kantin.
Ayo, menunya apa?
Ada banyak, Kevin. Kita bisa ambil sendiri makanan itu.
Chers amis, voilà l'émission d'apprendre l'indonésien pour aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'intervention d'urgence de COVID-19 sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, maintenant vous êtes avec moi Audrey, et je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson de Ndelio, Nusa Tenggara Est, intitulée Corona. Chers amis, la chanson Corona a été composée par Cyprianus Sea. Comme son titre l'indique, cette chanson en langue ND contient une invitation à se méfier du coronavirus. Les paroles confirment qu'une fois infecté par le virus, il sera difficile de récupérer. Les médecins avaient essayé de soigner jusqu'à la mort. Par conséquent, les gens sont invités à obéir aux réglementations gouvernementales afin que le coronavirus puisse être vaincu. La communauté est également invitée à prier le Dieu Tout-Puissant, tandis que les Mosa Boys, ou les anciens traditionnels, demandent à leurs ancêtres que la pandémie se termine bientôt. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Corona chantée par Marlene Mogo et Ito Tabe. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, émission d'entrebang sur le genre de COVID-19. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.